Pour ce matin, une des trois lectures bibliques du jour proposées se trouve dans le livre de Job. Et j'ai choisi d'y rester, de rester dans ce livre avec ses 42 chapitres. Job, cela vous dit sûrement quelque chose. Cet homme est juste et sage. Tout lui réussit, jusqu'au jour où il va perdre ses acquis, ses possessions, doucement, cruellement. Sa santé, sa famille, ses biens, son rang social. Après 7 jours de silence et de sidération, Job parle et hurle à Dieu sa douleur et son injustice. 3 amis essaient de l'accompagner et de trouver des explications. Et puis enfin, au chapitre 38, Dieu prend la parole. Certains d'entre vous ont peut-être vu il y a quelques années le film « The Tree of Life » de Terrence Malick, palme d'or du Festival de Cannes en 2011. Une parabole biblique, avait dit la critique. En effet, mais aussi une très profonde expérience esthétique et spirituelle. Comme le livre de Job, dont le film est émaillé de citations, l'histoire racontée s'interroge sur les racines et les origines du mal. Pourquoi le mal? Pourquoi la violence? Pourquoi la mort? Grand débat depuis la nuit des temps. Dans le film The Tree of Life, tout commence avec l'enfant, fragile entre les mains paternelles, comme protégé de son premier pas avant la grande marche. Puis hésitant et confiant face aux lumières de la vie. La mère est là, silencieuse et lumineuse, habitée par l'amour. La caméra de Malick ne cherche pas à cadrer le monde, mais s'y promène, sans vouloir l'enfermer. C'est comme une prière, passant de la préhistoire à l'infini avec de magnifiques échappées. Dans ce film, il y a moins à comprendre qu'à sentir, à écouter et à se souvenir aussi. Au début de l'enfance, il y a pour la plupart d'entre nous la douceur et l'amour. Puis viennent le mal, le désir, la violence, les questions, la soudaine brutalité des mots, les injustices, la vie avec ses hauts et ses bas, les années qui passent. Au début, il y avait des rêves et puis la mort a surgi. Dans notre film, un des fils meurt, puis le père perd son emploi. Écho au livre de Job. En quelques secondes, le monde parfait se fissure, explose et s'effondre. Mais tout au long du film, la vie est toujours présente, dans ses bonheurs et ses malheurs. Des vies telles qu'on en connaît tous. Puis vient le temps de la grâce. Une grâce comme pour l'apôtre Paul sur le chemin de Damas qui terrasse et renverse avant de relever et de transformer. Elle impose surtout le silence avant que n'affleure progressivement la longue liste des questions venues du fond des âges et du fond des cœurs. Comment ai-je perdu? Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Ce très beau film tourne autour de cette tragique réalité de notre condition humaine. Et tout comme le chapitre 38 du livre de Job, il prend aussi le parti de nous montrer la beauté de notre monde. Vous relirez chez vous en entier les 2 chapitres, 38 et 39. Contrairement au livre de la Genèse ou à certains psaumes qui nous parlent de la création, dans le livre de Job, c'est Dieu lui-même qui raconte ce qu'il a créé. La création racontée par Dieu, ce pourrait être le titre d'un livre à succès. C'est en fait la surprenante trouvaille de l'auteur de Job. Faire décrire par Dieu en personne la création du cosmos, puisque évidemment lui seul était présent. Ainsi, tout au long de ces 2 chapitres, Dieu prend la parole pour exposer comment les choses se sont déroulées, jetant ainsi un véritable défi à la sagesse et à l'intelligence de Job. Qui présida aux destinées du monde ? Demande Dieu à Job à plusieurs reprises. Job, évidemment, ne saurait témoigner de la création et force lui est donc de reconnaître la puissance divine et du coup sa propre finitude. Mais pourquoi une ode à la création au chapitre 38 de ce livre étonnant ? Est-ce pour susciter l'émerveillement des hommes devant l'œuvre du Créateur et les détourner du mal qui y règne ? Ce poème peut même sonner de façon provocatrice. Je suis au fond du trou et toi, tu me parles de la mer et des petits oiseaux ? L'auteur du livre veut par ce poème répondre au défi que Job a lancé à Dieu. Job lui a demandé plusieurs fois : « Qui es-tu, ô Dieu, toi qui me frappes ? Qui es-tu ? » Et Dieu de répondre : « Et toi, Job, qui es-tu ? » pour m'interroger de la sorte. Au scandale du mal qui nous interroge tous, le livre de Job entend faire répondre à l'énigme, au non-sens, à la révolte, à l'injustice, la beauté de la création. Nos deux chapitres sont une suite de tableaux et de poèmes où Dieu rappelle avec quelle autorité, mais aussi avec quelle tendresse, il a créé la terre et ses éléments. Job, image de la figure humaine, qui voudrait trouver une explication à tout et qui n'en trouve aucune, même avec l'aide de ses trois amis, image, eux, de l'humanité entière. Job reste confronté à ses limites. Viennent alors plus d'une trentaine de questions. Job, as-tu pu te rendre aux sources de la mer ? Est-ce toi qui as exploré les bas-fonds de l'océan ? As-tu franchi les portes du royaume des morts ? As-tu pu monter au ciel jusqu'au grand dépôt de neige et de grêle ? Est-ce toi qui ordonne au jour de se lever ? Est-ce toi qui prévois la nourriture pour les petits des corbeaux ? Qui conduit la grande ours et les autres constellations dans le ciel ? Dans une succession d'innombrables questions et non sans humour, Job reconnaîtra finalement sa propre fragilité dans le grand univers. Il ne sait pas grand-chose. Il ne sait même rien de la beauté et du bon fonctionnement de notre monde. Alors comment pourrait-il prétendre connaître l'origine du mal ? Et nous, que faisons-nous de cette magistrale démonstration ? Bien entendu, elle est écrite avec la compréhension de l'époque. Elle ne saurait être une base scientifique. Mais au-delà, au-delà, sommes-nous comme Job prêts à entendre la beauté et la grandeur du monde, malgré tout ? Non pas comme réponse à nos questions existentielles, qui de toute façon continueront d'être présentes et de sonner dans le vide, mais bien plus, comme une invitation à élever notre regard et à ouvrir nos cœurs. Sommes-nous prêts ? Le livre de Job nous invite à prendre notre juste place aux côtés du Dieu créateur, dans la confiance et dans l'espérance. Qui sommes-nous en effet pour juger Dieu et le placer à la source du mal ? Lui qui nous appelle encore et toujours à la vie, plus forte que tout. Il est intéressant de remarquer que Dieu, avec une tendre ironie, reproche à Job son incompétence, lui reproche de prendre une place qui n'est pas la sienne. Vous savez, c'est l'histoire de la tour de Babel, les hommes à la place de Dieu. Mais en revanche, jamais Dieu ne rend Job coupable de sa situation. Les paroles de Dieu ne sont pas culpabilisantes, elles sont bouleversantes et toujours dirigées vers la vie. Ce livre étonnant est une invitation à rester humble quant à nos théories et même quant à nos recherches sur le mal. Il est aussi une invitation à savoir toujours prendre la mesure de l'extraordinaire beauté du monde. Et d'ailleurs, Les plus grands scientifiques en témoignent eux-mêmes. Alors faut-il en déduire que le beau peut être un antidote face aux forces du mal? Le livre de Job n'est pas loin de l'affirmer. Et le monde protestant, souvent très sobre, dans ses architectures intérieures comme extérieures, a peut-être plus que d'autres besoin de l'entendre. Le beau nous oblige à regarder le monde avec bienveillance et avec confiance. Le beau nous convie à lever nos têtes et nos cœurs. Le livre de Job, l'Éternel, la bonne nouvelle, nous invite à traverser la vie avec ses joies et ses peines, ses hauts et ses bas, ses questions la plupart du temps sans réponse. Job, notre Dieu, le Christ nous appelle à garder notre âme d'enfant, notre capacité à nous émerveiller. Un paysage, un coucher de soleil, une œuvre d'art, une page biblique, une œuvre musicale, un sourire, un heureux moment partagé. Il y a tant d'occasions données pour apprendre à dire que c'est bon et pour découvrir que le beau peut aussi nous faire grandir et nous guérir. Job nous rappelle que dans nos jours les plus sombres, Dieu continue à dire non au projet qui nous écrase. Chaque matin, il fait se lever le jour. Il recrée le monde, mettant ainsi fin à la nuit de nos peurs et de nos épreuves. Une manière poétique de nous rappeler que la vie peut et doit être belle, en dépit des malheurs qui nous traversent. Et notre Dieu, oui, il est bien allé jusqu'à la croix pour le redire encore et le fixer à jamais en nous. L'espérance n'est pas vaine. Chaque matin est un jour nouveau qui, dans une tendre insolence, témoigne que Dieu veut notre vie pour le bonheur seul et que, quoi qu'il arrive, sa lumière vaincra. Amen.